Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Elle est comme toujours allongée sur son lit. François est assis à terre, contre le lit. Il pose sa tête contre sa poitrine. Elle lui caresse ses cheveux.
Que vas-tu faire là-bas ?
Rien. Je vais vivre, continuer mes études. Vivre, voilà tout. Inconsciemment, une certaine amertume s'est emparée de lui. Elle est inquiète pour l'avenir de son fils.
Tu vas vivre avec Yves ?
Oui, mère, avec Yves. Elle soupire.
Yves, pourquoi Yves ?
Parce que je l'aime et que j'ai besoin de lui pour vivre. Songeuse, et s'arrête de lui caresser les cheveux.
Et moi, je n'ai pas besoin de toi.
François est ému.
Maman, moi aussi j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de lui aussi. Tu vas me quitter, je serai bien seul. Seul, toujours seul. Pour moi, c'est la fin d'une vie. Allons, pars, si tu en as envie. Laisse-moi me reposer maintenant.
François est dans sa chambre. Il dort et dans son sommeil, il entend des pas dans le couloir. Il ne sait pourquoi, mais il sent un danger. Une voix lui dit qu'il doit se lever. Une porte qui s'est ouverte. Ce doit être celle de la cuisine. Lève-toi. Mais non, je suis trop bien dans mon lit. Et puis j'ai sommeil. Non, je ne me lèverai pas. Même si une personne est en danger. Même si une personne a besoin de toi. Non, je ne veux pas me lever. Nous verrons bien demain. Demain. Je veux dormir. Il est bien au lit. Mais quel est ce bruit? On dirait, je sais pas, quelque chose comme un robinet de gaz que l'on a ouvert. François, lève-toi. Il y a quelque chose, une personne qui est en danger. Pourquoi cette angoisse? Pourquoi cet appel? Ce sont que des bruits, voilà tout. Quel est ce trouble? Non, ce n'est rien. Dormons. Le silence. Enfin le silence. Le vrai silence. François dort. Lendemain matin, François se réveille. Il a la tête lourde et une sorte d'angoisse. Il ne sait pourquoi. Ah ! Tout d'un coup, il a entendu son père qui a hurlé. François se lève, sort de la chambre et court dans le couloir. La porte de la chambre de sa mère est ouverte. Son père en sort en courant. Il croise François. Ta mère n'est pas bien. Je vais appeler un médecin. François entre dans la chambre. Il voit sa mère allongée sur le lit, blanche, raide, la bouche ouverte. Un râle étrange sort de sa gorge. Elle semble inanimée. François se rappelle la nuit. Les bruits. Pourquoi ne s'est-il pas levé? Pourquoi? Elle est peut-être mourante. Oh mon Dieu, aujourd'hui. Mourante, aujourd'hui. Mais c'est le jour où je dois partir. Tu dois partir? Mais non, je ne peux pas. Je téléphonerai à Yves. Maman est mourante. Et sûrement que c'est de ma faute. C'est à cause de mon départ. Tu aimes ta mère et pourtant tu ne pleures pas. Tu ne ressens rien. Pourquoi ce vide devant ta mère qui souffre, qui agonise? Rien, le vide. Tu es un monstre, un monstre. Et toi, tu dis que tu es un monstre, c'est pour te donner bonne conscience. En réalité, tu ne penses pas, tu ne penses à rien. Pourquoi ce vide? Pourtant, tu aimes ta mère. Ma mère, c'est pas cette chose-là qui est inerte? Ma mère, c'est ma mère. Elle est belle, douce. C'est maman? Oui, c'est maman. Le père est assis, effondré dans un fauteuil. François lui fait face, ne sait comment se tenir. Il aimerait être à 100 lieues d'ici. Des médecins s'affairent autour de sa mère en attendant l'arrivée de l'ambulance qui doit l'amener à Grange-Blanche.
Je t'en prie, ne me laisse pas seul. Ne pars pas. Attends que ta mère se rétablisse.
Oui, père. François pense qu'il doit téléphoner à Yves pour le prévenir. Mais quand ? La mère est menée à l'hôpital. Son mari et son fils l'accompagnent. Mais les médecins n'ont pas voulu qu'il reste. On leur téléphonera. Ils sont tous les deux assis au salon près du téléphone. François aimerait téléphoner à Yves, mais il n'ose pas, ça ne se fait pas. Sa mère est dans le pavillon de réanimation. Il ne pense qu'à téléphoner à Yves.
« Pourquoi a-t-elle fait ça ?» demande le père. « Et Patricia, qui est partie chez une amie, faudrait la prévenir. Patricia. » aurait dû me donner le numéro de téléphone. Je vais à la poste lui envoyer un télégramme.
Enfin, son père est bien parti. Oui. Il a bien entendu la porte d'entrée se fermer. Vite, le téléphone. Fais le numéro. C'est toi, Yves? Oui, c'est moi. Écoute, je ne peux pas partir pour le moment. Il est arrivé un malheur. C'est ma mère. Elle est dans un état très grave à l'hôpital. Faut que je reste. Qu'à ta mère? Elle est dans le coma. Sans nul doute un suicide. Écoute, je raccroche. Je crois que mon père ne va pas tarder à venir. Je tiendrai au courant. Après 2 jours de réanimation, Charlotte de Boissol, non, Elisabeth de Boissol, meurt. l'enfant ne peut y croire. Il a beau se dire que sa mère est morte, cela ne veut rien dire pour lui. Le vide le plus complet. Pour lui, elle est toujours vivante. C'est juste au moment où le cercueil est déposé dans la tombe que son visage commence à se rider et que quelques larmes coulent sur ses joues. Pleure-t-il pour lui ou pour sa mère? Non, il aimait vraiment sa mère. François est dans sa chambre, allongé sur le lit. Il a la tête lourde. Une grande peine l'envahit. Il a mis les eaux bleues d'Hawaï, mais il ne les entend pas. Des souvenirs lui reviennent. Non, jamais. Ce ne sera comme avant. Lorsque le matin, il était enfant, sa mère venait le réveiller. Oh, maman! Avec quelle douceur, il a les larmes aux yeux. François, avec quelle insouciance, il l'a quitté. Pourquoi? Pourquoi? Il se souvient qu'un jour, il était jaloux de sa mère parce qu'elle s'occupait trop de son père. François a les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Un jour, il était enfant. Il avait économisé pour faire un cadeau pour la fête de sa mère. Il lui acheta un mouchoir brodé. Il n'a jamais osé le lui donner. Oh, maman, maman. Puisque je n'ai pas eu de chagrin, pourquoi n'ai-je pas eu de chagrin? Je t'aime pourtant. Je t'aime pourtant. La porte est ouverte. Patricia entre. J'ai frappé. Tu ne répondais pas. Ça ne va pas, François? Elle regarde sa sœur. Elle voit qu'il est en larmes. Comment lui expliquer qu'il a du remords parce qu'il n'a rien ressenti pour la mort de sa mère? Elle se penche, lui donne un baiser sur son front et s'assoit sur le lit. Je sais, François, c'est dur. Moi aussi. Mais il faut malgré tout être fort. Père a besoin de nous. Elle se tait un moment, puis reprend. Que vas-tu faire maintenant? Tu comptes rester avec nous? Je dois rejoindre Yves. Tu pars alors? Oui, tout de suite. Je ne sais pas, dans une semaine ou deux. Je ne sais plus. Elle lui prend la main. Et si tu restais? C'est impossible. Yves m'attend. Et moi aussi, je t'attends. Et père. François baisse les yeux. Je reviendrai toutes les fins de semaine. Elle soupire. Tu as décidé de vivre avec qui? Oui. Il le regarde bien en face et lui dit: tu l'aimes? Oui, dit-il calmement. Je l'aime. Tu crois que c'est bien pour toi de vivre avec lui comme ça? Elle se lève et fait les 100 pas dans la pièce. n'avais pas connu, j'aurais peut-être une petite amie. Je ne doute pas que pour lui aussi, ça aurait été mieux. Que deviendra-t-il avec toi? Quel avenir aura-t-il? Il faut sacrifier des fois son amour lorsqu'on s'aperçoit qu'il est nuisible à l'autre. Le mariage, nous serons à jamais interdits. Tu te rends compte? François se lève. Prend sa sœur dans ses bras et lui dit avec calme, Yves m'aime, tu comprends? Je ne peux pas me priver de lui et lui ne peut pas se priver de moi. Je veux vivre avec lui, j'ai besoin de lui comme lui a besoin de moi. Tourne la tête de droite à gauche et dit, il n'est plus que tout pour moi. Puis les larmes aux yeux, il se met à hurler. L'avenir, je m'en fous! Lâche sa sœur, émue. Elle se retire de deux pas. Viens, François, je t'aiderai. Est dans sa chambre, triste, elle aurait tellement voulu convaincre son frère. Elle se fiche pas mal d'Yves, mais son frère, lui, aurait peut-être connu des jeunes filles, elle. François est seul dans sa chambre, ce que vient de dire sa sœur le trouble. Faut-il pour le bien d'Yves, le mener vers les filles. François fait non de la tête. Yves a trop besoin de lui. Et pourquoi de réaction n'aurait-il pas le droit de vivre heureux ensemble? Il ne faut rien de mal. Mais Yves, son ami, oh que cela est compliqué. Yves, je t'aime, voilà tout. Et je pars avec toi. C'est simple, non? Le taxi vient de s'arrêter devant une vieille maison. Il fait nuit, la rue est déserte. C'est une petite rue, pas très large. Les maisons sont vieilles et délabrées. Sortent du taxi, François et Patricia. Tu vois, c'est ici. Tu crois que c'est ici, demande François, demande Patricia. D'après l'adresse, oui. Elle regarde autour d'elle. « Mon Dieu, comme c'est triste et sale. Numéro 19 est bien ici. » Ils entrent tous les deux dans l'allée. Et cherchent le nom sur les boîtes aux lettres. François a trouvé. « Ah, c'est là, premier étage. » Les escaliers sont sales. La minuterie ne marche pas. Il marche à tâtons. Au premier étage, François allume son briquet pour lire les noms sur les portes. Ah, voilà, c'est ici. Il est un peu ému. Que va-t-il se passer? Parce que cela fait presque, même plus qu'un mois, qu'il n'a pas vu Yves. A-t-il changé? Il sonne à la porte.
une vieille femme apparaît. François et Patricia sont surpris.
Vous désirez, messieurs ?
Messieurs, dames ? Je suis François Boisseuil et voici ma sœur. Nous désirions voir Yves du Parc.
Entrez, je vous en prie.
Il a pris froid. Il est au lit. Je suis sa voisine. Hier au soir, je l'ai vu entrer chez lui. En mauvais état. Il avait de la fièvre. Alors je viens de temps en temps voir s'il n'a pas besoin de quelque chose. C'est pas grave, j'espère.
Non, monsieur. Au début, c'est un début de grippe.
Mais, je vous en prie, l'appartement comprend un petit couloir avec des portes, manteaux, plein de vêtements en désordre, une grande pièce qui sert de salle à manger communicante et de salle commune. Il y a un grand évier, une cuisinière, un réfrigérateur, un divan et une commode, une table, des chaises, le tout très quelconque, tout ça dans une seule et même pièce. Patricia regarde tout ça avec de grands yeux. C'est la première fois qu'elle se trouve dans un décor aussi pauvre. Tout ceci la met mal à l'aise. Elle se demande comment va faire son frère pour s'habituer à tout ceci. Non, c'est pas possible. Il y a même du lino à terre. François est surpris, mais n'ose pas trop le montrer. Et puis, ce sera son premier chez-soi avec Yves. Il demande « Où est Yves ?»«
Dans la chambre. Là, je vais voir s'il peut vous recevoir. »
Elle entre dans la chambre. François. François et Patricia sont seuls. Patricia prend du haut de la cheminée un bougeoir en forme de danseuse. Elle le montre à François en faisant la grimace. François lui dit doucement et très bas, « Tu crois que tu pourras tirer quelque chose de tout ceci ?»«
Oui, ne t'en fais pas. Rideau, double rideau.
Et puis, nous allons crépir les murs, tu verras. » La vieille dame revient. Elle leur dit,
vous pouvez entrer, mais il est encore bien faible.
François et Patricia entrent dans la chambre. Il a le corps qui bat très fort. La chambre est dans la pénombre. On voit qu'une grande tache blanche, ce sont les draps. Une jolie tête d'Angelo, les yeux mi-clos, le visage en sueur repose sur un oreiller. François s'approche.
C'est toi, François ?
Dit une voix toute tremblante.
Oui, Yves. Nous sommes venus, comme ton venu, moi et ma sœur. Que j'ai mal à la tête, j'ai trop chaud, j'aimerais dormir,
sans te laisser.
Non, restez, ça me fait du bien de sentir votre présence. Patience, hein, faut que je tombe malade, justement, au moment où vous arrivez.
François lui donne un baiser sur le front.
Bonjour ou bonsoir tout de même.
Patricia s'approche.
Bonjour Yves. Bonjour Patricia. Tu permets, je vais demander à François de me mener à un hôtel. Je suis fatiguée. Non, reste Patricia. Il y a un canapé. Lit dans la grande pièce.
Merci, mais je ne peux. S'il reste, de toute façon, il est trop tard pour trouver un hôtel. Et puis, il sera très bien avec nous. Merci. La dame t'aidera à faire ton lit. Je vais me préparer. Elle sort de la pièce. François caresse le front d'Yves. Tu es heureux de me revoir? François, tu es heureux de me revoir? Je suis horrible, n'est-ce pas? La fièvre n'arrange pas les choses. Non, tu es très bien. On dirait un petit oiseau ébouriffé. Il ajoute d'une voix joyeuse. Nous allons vivre ensemble, n'est-ce pas? Ce sera notre chambre, notre lit. Au fait. Où comptes-tu dormir cette nuit? Où pourrais-je dormir cette nuit? Ici, près de moi? Mais tu es malade, je risque de te déranger. Non. Tu te feras tout petit. Tu n'as pas envie d'être près de moi, après tout ce temps? Si, bien sûr. Et il l'embrasse sur le front. Patricia est réveillée par la lumière du jour. Pas de volet, pas de rideau à la fenêtre. Les draps trop frais, trop raides, l'ont empêché de dormir.
Et ben, elle a faim.
Se lève. Elle est en pyjama rose pâle. Cherche dans son sac son nécessaire de toilette. Mais se souvient, zut, je peux pas aller dans la salle de bain. En attendant, eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, préparer le petit déjeuner. Dans la chambre, François et Yves dorment. Yves a posé sa tête sur la poitrine de François. Ce matin, Yves se sent mieux. Il a même demandé à manger. Patricia lui a préparé un bouillon et du jambon. François reste près d'Yves. Patricia apporte les bouillons. Merci, Patricia. Elle s'assoit à côté de son frère sur le lit. Comment allez-vous vous organiser? François et Yves sourient. François dit, nous ne savons pas. Vous vous organisez pour vous partager les tâches. Tiens, qui va faire le linge, la vaisselle, enlever la poussière? Moi, je veux bien essuyer la vaisselle, dit Yves. Mais François lavera le linge. Je viens aussi m'occuper de la cuisine. S'il y a plus les légumes. François rit. Ce petit bonheur à deux l'enchante. Ce petit bonheur qu'il est fait de rien. Patricia reste 15 jours avec eux. Elle range, organise leur vie. Elle fait crépir les murs de la salle commune, met des rideaux et double rideaux, supprime les bibelots, fait mettre une imitation parquet à la place du lino. Sous la chambre, ce sera plus tard, lorsqu'Yves ira mieux. Le temps est sec et beau, cela permet de sécher rapidement. François s'est fait inscrire à l'université. Yves reprend petit à petit des forces. François est très tendre avec lui. Il le couvre et le chouchoute comme s'il était un enfant.
D'ailleurs, il a gardé, malgré ses 18 ans, un caractère d'enfant.
Il aime se blottir, se faire câliner. Il lui arrive, très souvent, la nuit, de sucer son pouce.
Lorsqu'il mange des petits pois, il les prend à la fourchette, un à un. Lorsqu'il
travaille,
lorsqu'un travail le passionne, il tire la langue. Ses manies, ses gestes sont précieux. Il ressemble à une petite chose fragile, sans force ni caractère.
Patricia, grâce à la vie en commun, s'est mise à avoir de l'amitié pour ce petit garçon.
Elle le soigne, le bichonne, le serre comme si c'était son petit frère. Elle se sent bien au milieu de ses deux garçons, ou plutôt au milieu de ses deux frères. Elle a presque oublié sa vie à Lyon et a l'impression que cela fait depuis toujours qu'elle mène cette vie. Le matin, pendant qu'ils sont au cours, elle surveille les travaux des peintres, fait les courses, le ménage. C'est la première fois qu'elle s'occupe d'une maison et cela l'amuse beaucoup. Elle a l'impression d'avoir de hautes responsabilités. C'est aussi la première fois où elle se sent libre.
Yves et François ont chacun leur cours. François a fait la connaissance d'un dénommé Eric, 25 ans, grand, mince, long et très élégant. Il est fils unique d'hôtelier et fiancé avec la fille d'un médecin.
Il dit à François, je suis forcé avec la fille, tu comprends? Elle est enceinte, je peux pas la lâcher. Je suis obligé de me fiancer avec elle. François le regarde surpris. Un de quatrième année de médecine, faire un enfant, sans savoir une fille, c'est pas possible.
Mais comment? Dit-il.
Oui, je sais, cela peut paraître bizarre, mais je crois qu'elle l'a fait exprès. Et puis l'avortement n'en veut pas. Tu comprends? Grande famille catholique.
Mais tu l'aimes?
Oui, je l'aime. Mais j'aime aussi autre chose. Si tu veux, tu viens chez moi. On pourrait mieux parler. Je serais plus tranquille que dans ce café.
Oui, si tu veux.
Surtout, faites pas attention, la femme de ménage n'est pas passée. Tiens, assieds-toi. Il enlève le linge qui est sale, qui est sur une chaise. François s'assoit. Et Eric s'assoit à terre. François regarde la pièce. C'est une chambre quelconque, sale et triste, avec un lit en fer, un fauteuil et une table.
Tu veux boire?
Non, merci. Tant mieux, parce que je n'ai rien. Je n'ai rien et mes poches sont vides. Baisse les yeux, puis regarde bien en face François.
Je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai un problème. Je vais me marier et pourtant, j'aime faire l'amour avec les hommes.
Je peux pas m'en passer. Tu comprends? C'est si différent. J'ai besoin des deux. Il regarde François dans les yeux. François ne bouge pas.
Et comment fais-tu?
une fois mariée.
Je crois que je continuerai. Je me cacherai. C'est plus fort que moi. Tu comprends? Il se rapproche du visage de François qui ne réagit pas.
Je ne sais pas.
Tu sais, je ne suis pas le seul. Beaucoup sont bisexuels. Lorsque tu couches avec un homme, tu n'as pas l'impression de tromper ta femme?
Non, c'est si différent.
Je dois aller la chercher dans une heure. Il prend la main de François. François qui la retire.
Non, je dois m'en aller.
Ils se lèvent tous deux.
Surtout, garde ça pour toi. De ce que je viens de te dire. Bien sûr, au revoir. C'est dommage.
Malgré tout, François et Eric restent bons amis. Ils se voient après les cours, vont café ensemble et parler de la vie, du monde. Patricia prépare sa valise et doit rentrer, père est de retour. François et Yves l'aident à ramasser ses affaires. Ils sont tous les trois tristes. 15 jours a suffi pour renforcer les liens. Elle voit Yves qui essaye de plier un pull.
Non, pas comme ça. Tu vois, c'est mieux. Soupir. Qu'allez-vous faire maintenant, sans moi?
Saurez-vous vous débrouiller?
Elle met ses deux mains sur les épaules d'Yves et lui dit.
Surtout sois sage et heureux, mon frère.
Elle l'embrasse sur la joue et ajoute.
Tu es bien jeune.
Comment vas-tu vivre plus tard? S'approche de son frère, le prend dans ses bras.
François, toi aussi, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur moi.
Ne crains rien, petite sœur. J'aurai très bien ici.
Pour plus tard. Mais enfin, j'aurai encore le temps. Merci pour tout.
Elle va dans le couloir, décroche son manteau, un porte-manteau, l'enfile et revient dans la pièce.
Voilà, je suis prête. Je dois vous quitter. Mon train part à 16h.
Pour François et Yves, c'est leur première nuit seule. Avec Patricia dans l'appartement, ils n'avaient pas pu se retrouver vraiment. Patricia partie, une nouvelle vie va commencer pour eux. Ils sont tous les deux dans la chambre, leur chambre. Se déshabillent, comme les autres soirs. Mais ils savent que ce n'est pas la même chose. Les gestes sont plus longs. Ils n'osent pas se rejoindre. Enfin, François fait face à Yves. Ils sont tous les deux devant le lit en pyjama. François regarde Yves. Yves regarde François. Comme Yves a changé. C'est un jeune homme maintenant. Et cela malgré son côté fragile, féminin. Tout à coup, Yves s'élance vers François, se plaque contre lui.
le caresse, le coupe de baisers. Ça fait si longtemps, François, si longtemps. François se dégage, quitte son pyjama et se trouve nu. S'élève le long de son corps, du corps vivre. François et Yves. François et Yves, nouveau corps. Cette nuit, ils se sont retrouvés. Petit matin, dans les draps, en désordre, Yves dort sous François. Ils sont les traits détendus et semblent heureux. Les vêtements sont en désordre à terre. Une odeur de nuit d'amour se mêle à celle d'un savon. D'un savon au citron. La porte de la salle de bain est restée ouverte. Deux gants traînent sur le lavabo. La douche n'a pas été essuyée. Yves, il faut te lever. Yves reste ses yeux fermés et s'agrippe encore plus fortement à François.
Non, je suis bien comme ça.
François lui donne un baiser sur le front et lui dit « Fais pas l'enfant, mon petit enfant, que tu es câlin, mais il faut te lever. »
Il lui donne un baiser. Nous sommes dimanche, nous avons tout le temps.
Il est déjà 10 heures, tu sais, et la maison est tout en désordre. François se décerne l'emprise d'Yves et sort du lit. Yves sent un grand froid l'envahir. Il ouvre les yeux, s'étire. Son corps, nu et blanc, semble lisse comme une statue grecque.
Oh non, je ne peux pas ouvrir les volets. Attends que je sois sorti. T'as passé une bonne nuit?
François s'approche du lit, se penche vers Yves, lui baise la main.
Oui, j'ai passé une très bonne nuit, Yves.
Yves s'étire,
se couche sur le ventre.
François s'habille. Et en même temps, il ne peut s'empêcher d'observer Yves. Sur tous ses fesses lisses et douces.
François, je veux que tout soit toujours comme ça.
Il se lève et dit,
je vais dans la salle de bain. Tu prépares, s'il te plaît, le petit déjeuner.
La porte de la salle de bain vient de se fermer. François s'approche du lit, enlève les draps pour les secouer.
Que c'est bon. Oh. Que c'est bon, mais un peu chaud, dit Yves.
François le voit tremper sa quatrième tartine de beurre.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.